C'est bizarre à dire peut-être, mais j'ai plaisir à faire ce métier-là. Je me lève pas tous les matins en me disant je vais au chagrin ou je vais à la mine. Non, je.
Parce que le plaisir, du coup, il vient d'où? Il vient d'aider les gens?
Ouais.
Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Occupation. Aujourd'hui, je vous emmène dans un univers souvent méconnu qui génère un imaginaire très fort, mais auquel personne ne peut finalement échapper, celui du funéraire. Pas le choix, malheureusement, un jour, il faut rencontrer un conseiller funéraire. Mais ces conseillers funéraires, qui sont-ils? Des hommes de l'ombre, des gens sinistres? Eh bien, en l'occurrence, Julien est un trentenaire plutôt sympa, barbu, souriant et qui ne porte même pas un costume noir. Si son métier l'amène forcément à relativiser les choses de la vie et de la mort, vous allez voir qu'il est surtout comme tout le monde, avec ses humoristes préférés et la passion de la musique.
Est-ce que c'est forcément un métier triste de travailler dans les pompes funèbres ?
Contrairement, je pense, à beaucoup d'idées reçues, non. Non, non, non. Enfin, en tout cas, entre nous, je pense qu'on est généralement des personnes qui sont assez joyeuses. Je sais pas si c'est parce qu'on a beaucoup de recul sur les situations ou parce qu'on voit la vie différemment, mais généralement, les personnes qui nous rencontrent, quand, bon, en tout cas, c'est mon cas, quand je dis ce que je fais dans la vie, on me dit ah ouais, on n'aurait jamais deviné. Non, on n'est pas des personnes tristes,
Oui,
au contraire.
je vais y venir peut-être un peu plus tard, mais il faut préciser que tu joues dans un groupe de rock notamment. Donc quand on
Ouais,
te rencontre dans ce cadre-là, je me doute qu'on ne se doute pas.
voilà, c'est ça. Mais j'ai déjà vu des gens qui tombent la mâchoire et qui disent Ah d'accord! Ah d'accord! Ah oui, d'accord! Bon. Donc oui, ça brise la glace.
Je me suis retenu dans ma première question de dire, est-ce que c'est forcément triste d'être croque-mort? Est-ce que ça t'embête si on dit croque-mort?
Ouais, le terme me dérange un petit peu, je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai toujours vu une image peut-être péjorative de ce mot. Ouais, je me sens pas comme croque-mort, peut-être parce que c'est aussi pour ça que j'ai choisi cet aspect-là du travail. Moi, je me trouve du côté des vivants et pas des morts. Je suis là pour soutenir les vivants et.
Toi, tu le définirais comme ça, soutenir
Ouais,
les vivants.
ouais.
Très
Moi,
bien.
je suis plus là pour épauler, organiser et réconforter, si on peut dire.
J'allais te demander si on s'habitue à côtoyer la mort, mais du coup, tu as l'air de me dire que tu côtoies pas vraiment la mort, tu côtoies les vivants.
Bah ouais, bon, après, quelque part, je côtoie la mort parce que je reçois les vivants et aussi parce que, enfin, ici, dans l'entreprise, on gère tous les aspects, comme on en discutait avant. On est une entreprise ici où on fait tout, donc on va même également chercher les défunts. Et du coup, une fois par mois, j'ai ma permanence où c'est moi qui vais chercher les défunts aussi. Ça m'arrive d'épauler mes collègues sur des convois ou sur des enlèvements de corps à domicile quand certaines personnes sont pas disponibles. Je m'y déplace aussi. Et aussi parce que c'est un métier de famille chez moi. Mon papa est thanatopracteur, c'est lui qui prépare les défunts. Mon frère est thanatopracteur aussi. Donc, bon, bah, je suis déjà allé travailler aussi avec eux. Donc, oui, bon, ok, je côtoie la mort, mais je préfère épauler les vivants.
Est-ce que ça calme les angoisses de mort? Après, peut-être que tu n'en avais pas. J'ai l'impression que ça va être le. Alors, il faut le dire, ça va être l'émission où on va dire probablement le plus souvent le mot mort de toutes les émissions qu'on a fait. Est-ce que ça calme les angoisses de mort? Est-ce que ça relativise? Tu disais, on a une vue un peu différente du coup.
Oui, je pense que ça. On y pense différemment. On y pense différemment. Enfin, on sait que. Enfin, moi, c'est ce que je dis souvent à mes clients. Ça fait malheureusement partie de la vie. Donc, oui, de cet aspect-là, je vais pas dire que j'ai pas peur de la mort. Comme tout le monde, j'ai mes appréhensions dessus. Mais on aborde les choses différemment. Ou en tout cas, c'est pas quelque chose de tabou. On le voit. Enfin, c'est quelque chose que je vois souvent. Il y a des fois j'ai eu le cas d'une fois d'une dame qui m'a dit. En regardant le mot obsèque sur les papiers, et elle m'a dit mot pour mot, en me regardant droit dans les yeux, elle me dit, je vais vous mettre à l'aise tout de suite, ça pour moi, ça devrait pas exister. Ouais, bon ben je.
À quel niveau en fait? Ah, parce qu'il y a des gens qui pensent que vous profitez ou que c'est trop un
Oui,
commerce?
clairement, clairement, il y en a qui voient la chose de manière très commerciale en disant oui, vous êtes des profiteurs, etc. Malheureusement, enfin, je pars du principe que tant qu'on n'aura pas trouvé de remède à la vie, c'est quelque chose qui existera quoi qu'il arrive, et comme tout le reste dans la vie, ça a un prix, donc
T'as vu que t'as dit pas de remède à la vie.
oui, ouais. Mais j'aime bien cette expression.
Parce que la vie, c'est une longue maladie qui se termine par la mort.
Moi, je le vois comme ça. Si on regarde au final, à partir du moment où tu nais, ton corps évolue. Mmh. Ton corps évolue et se dégrade à un moment. Bon, nous, on est dans une phase de la vie où ça va, on n'est pas trop à plaindre. Mais bon, bah, petit à petit, arrive la maladie, le corps se dégrade. Ouais, on peut le voir ça comme une maladie. Ouais.
Il y a des très jolis mots de Pierre Desproges, hein, là-dessus. Je ne sais pas si tu les avais déjà lus, mais où il dit « Docteur, j'ai une maladie qui dégénère, qui fait que mes cellules se détruisent. » Et il lui dit « Dites-le-moi, j'ai un cancer. » Et justement, non, le médecin lui dit « Non, vous êtes vivant. »
Ouais.
Et il dit « Je suis en vie, mais où est-ce que j'ai bien pu attraper une telle saloperie ?»
Alors, je ne me souvenais pas de ces mots-là, mais je sais qu'il avait un recul énorme, et j'aime énormément Pierre Desproges pour ça, il avait un recul sur sa maladie. Ouais. Je ne sais plus dans quel sketch il dit, alors qu'il sait qu'il va mourir, mais il dit quelque chose du genre « Ah mince, ça m'a échappé, mais... de toute façon, moi, le cancer, je ne l'aurai jamais parce que j'en veux pas, ou quelque chose comme ça. » Alors qu'il sait très bien qu'il est condamné, et je trouvais ça excellent, ouais, d'avoir un tel recul sur sa situation.
On parle de Pierre Desproges. Est-ce que la mort, ça peut être drôle quand on la côtoie comme ça au quotidien?
Tu veux dire avoir des situations cocasses? Oui, il y a des morts plus drôles que d'autres. Il y a des noms. Des noms qui sont qui peuvent être assez marrants sortis de leur contexte. Ça peut être drôle, oui. Après, faut pas croire, toutes les personnes qui passent la porte de l'entreprise sont pas tristes. Alors peut-être parce qu'ils ont, ils me le disent, hein, des fois, oui, on a du recul, on a besoin d'en rire pour être soulagé, mais toutes les situations ne sont pas tristes, ouais.
C'est aussi pour ça que je demandais ça, des fois des rires nerveux ou des rires
qui
libèrent, en fait, parce il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui rient aussi.
Exactement, complètement, t'as entièrement raison.
Donc ça arrive.
Ouais, ça arrive, ouais. Plus souvent qu'on ne le croit. Toutes les personnes qui viennent ici sont pas, ou en tout cas ne montrent pas une tristesse énorme. Alors, ça n'enlève rien, ils sont certainement très tristes, mais peut-être, comme tu dis, que le rire est un exutoire et que c'est une façon pour eux aussi de libérer. On met
les poignées, tu vois, qui sont choisies, et puis,
on laisse tout ça. On met après derrière le... Il y a des cuvettes étanches qui sont obligatoires.
Alors attends, là c'est...
Voilà, c'est la pièce où mes collègues font les cercueils.
Ah, ils font les cercueils eux-mêmes?
Ah ouais, on a... Ça va pas te faire bizarre si je te fais voir...
Non, bah vas-y. Ah oui, donc c'est une pièce où il y en a des dizaines, non, de cercueils? Elle est immense.
Ouais, c'est immense. En fait, bon, tu vois, là, nous, c'est une entreprise qui nous livre les cercueils qui ne sont pas équipés. Et puis c'est nous, après, qui ajoutons les poignées, le capiton à l'intérieur, on fait tout.
Ah oui, d'accord, je pensais que moi, j'avais cette image, tu sais, de la salle d'exposition où il y a des cercueils tout capitonnés, etc.
Alors, j'aurais pu te la faire voir là-bas, mais non, là...
C'est des boîtes en bois, là, qu'on voit.
Ouais, c'est ça, donc les personnes nous disent, je veux tel cercueil, et puis après, on l'équipe, tu vois, ils vont nous dire, par contre, le capiton, je le veux bleu, comme ça, on le fait sur place.
Ah oui, donc là, il y a des tailles, je vois 195 cm,
oui.
Liste,
oui,
etc.
Il y a des tailles en fonction de la taille des défunts, ouais.
Ah oui,
175, 195,
d'accord, ouais. Donc moi, par exemple, il me faut quoi? Je fais 1m85
195.
Ah oui, d'accord, il faut un peu de marche, quand même. Voilà. Il faut de la marche pour le capitaine. Oui, d'accord, donc ma taille, c'est le cercueil qui est derrière toi, si je comprends.
Ouais, le plus tard possible, j'espère pour toi.
Et je vois même pas le bout de la pièce, en fait.
Non.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, donc il y en a des centaines même, en fait, dans la pièce. Donc.
Oui.
Là, c'est vraiment le bon endroit pour une course-poursuite de nuit dans un film ou un truc comme ça.
Ouais. Un cache-cache.
C'est ça. Ah oui, le bon cache-cache. Ouais. Oui, donc tu disais, ouais, c'est une boîte sur laquelle on rajoute des poignées, un capiton.
Voilà, exactement.
Est-ce que vous en avez des tout petits pour en envoyer à vos ennemis concurrents?
Non, on n'a pas d'ennemis, c'est des confrères. Évidemment, c'est des concurrents, ceux qui sont dans le secteur, c'est des concurrents, mais bon, ça reste des confrères.
Ça fonctionne.
Parlons un peu de ton métier. Tu l'as dit, des fois, il t'arrive d'accompagner sur des enlèvements de corps, il t'arrive d'accueillir du public. Officiellement, quelles sont tes tâches? Est-ce qu'il y en a une précise, ou alors est-ce que tu fais un peu de tout, en fait, dans l'entreprise?
Alors, dans l'entreprise, je fais tout parce que on a une petite entreprise familiale. Mais autrement, moi, mon métier sur le papier, c'est conseiller funéraire.
Donc, c'est une sorte, on pourrait dire, c'est un commercial.
C'est exactement ça, ouais.
C'est
exactement ça. Sortie des mots, c'est un métier de commercial, ouais.
très, très basiquement, mais dans un domaine qu'est le funéraire. Et tu disais, voilà, c'est ça qui crée parfois peut-être ce décalage, ou en tout cas cet a priori que peuvent avoir certaines personnes de commerce de la mort, en fait.
Oui, ben, alors après, parce que moi, j'en viens pas tout de suite à parler l'aspect financier, je le laisse vraiment pour la fin. Moi, ce que je commence par faire quand je reçois des personnes, c'est de discuter avec elles, de discuter, de voir ce qu'elles souhaitent faire. Concrètement, mon métier, c'est d'organiser la cérémonie funéraire. Donc, on commence par prendre les renseignements sur le défunt, de savoir s'il s'agit d'une cérémonie civile, c'est-à-dire qu'on ne passe pas dans un lieu de culte, ou si au contraire il faut passer par une église, une cérémonie bouddhiste ou autre, on organise de tout, et ensuite savoir s'il faut inhumer la personne ou bien aller au crématorium.
Et là, vous, en fait, c'est ça qui m'a étonné dans la préparation, c'est que vous gérez absolument tout. C'est-à-dire que vous allez chercher le corps de la personne, vous gérez les papiers, vous gérez vous creusez le caveau.
C'est ça.
Caveau ou tombe, d'ailleurs, c'est deux choses différentes.
Ouais,
c'est la même chose. Mais c'est quoi, ça m'a perturbé.
La tombe en elle-même, ça peut être ou le caveau, c'est-à-dire que c'est cimenté de l'intérieur. On va creuser dans le sol, couler du béton, et puis inhumer le cercueil et refermer le caveau. Ou bien, effectivement, la tombe peut être une fosse. Une fosse, c'est-à-dire qu'on va creuser dans la terre, on va inhumer le cercueil directement dans la terre et reboucher avec la terre.
Très bien. Donc, vous gérez tout ça. Donc, du début jusqu'à la terre qui recouvre le cercueil et la pierre tombale, etc. On peut acheter une pierre tombale, on en a vu devant.
Voilà.
Donc, vous gérez tout ça. Et au milieu de tout ça, il y a la préparation du corps qui est aussi gérée, en fait, par l'entreprise.
Oui.
Et donc, ça, c'est quelque chose que tu ne fais pas, par contre. Toi, tu es juste dans le commercial.
Voilà, ça, c'est un métier à part entière. C'est un thanatopracteur diplômé qui doit s'occuper de ça. Donc là, on fait appel, effectivement, à un sous-traitant.
Toi, ça t'arrive quand même de côtoyer cette partie-là. Je suppose que ça vous arrivait de passer, de passer devant. Ça fait un choc les premières fois, forcément ou...
Alors, ben, comme je te disais tout à l'heure, moi, comme j'ai grandi dans ce milieu... Je pourrais pas te dire que ça fait un choc, mais je pense que oui, bon, pour l'avoir vu avec d'autres personnes, quelqu'un qui voit une première fois, pour la première fois, un défunt ou qui assiste à des soins de conservation ou à une toilette, ça peut faire un choc. Oui.
Ouais,
ça peut faire un choc. C'est pas quelque chose d'anodin. Et puis, je pense qu'on est encore, on est dans une société où la mort, finalement, on veut pas trop la voir. Donc et on a beaucoup d'a priori là-dessus, et je pense que ce qu'on voit aussi à la télé, quand on est dans le milieu, on se fait tous la réflexion, mais c'est propre, ce qu'on voit à la télé, la mort est propre, et c'est pas toujours le cas.
Ah oui,
ça peut être impressionnant.
Est-ce que t'as regardé Six Feet Under, par exemple ?
Non, on m'en a toujours parlé, j'ai jamais regardé.
Alors là, moi qui pensais que j'allais arriver dans Six Feet Under et qu'il y aurait des références partout. Bon.
Non, mais...
Parce que c'est une bonne référence, là tu disais paraît, c'est plus sale, donc je me disais, est-ce que tu allais pouvoir me dire si c'était plus ou moins sale que Six Feet Under ?
Non, je suis désolé, je peux pas comparer.
Bon. Tu disais, on disait que vous faisiez tout le jour des obsèques, donc tu aides, là c'est pareil, ça peut changer de rôle, vous portez les cercueils, etc. Oui. Dans l'ensemble, on l'a dit là plusieurs fois, vous êtes une entreprise privée, il y a une notion commerciale, etc. Mmh. Mais est-ce que tu as quand même l'impression de remplir une mission quasiment de service public, en fait ?
Oui, parce que on a beau dire, ça, c'est vrai, ça a un coût, mais c'est quelque chose en fait d'obligatoire. C'est quelque chose d'obligatoire. Demain, quelqu'un qui dit bah non, enfin j'ai pas les moyens d'inhumer la personne, on va toujours trouver une solution en fait pour le faire. Concrètement, on peut pas laisser un défunt ici dans un funérarium ou à domicile ad vita aeternam. C'est pas possible. On doit procéder à l'inhumation. Donc je sais pas comment ça se passe ailleurs. Ici, on arrive toujours à trouver des solutions. Donc ouais, t'as raison quand tu dis que c'est quasiment finalement une mission de service public.
Oui, parce qu'au final, comme tu le dis, il faut bien que ce soit fait.
Ouais, faut bien que ce soit fait
légalement, même légalement, quoi.
On
peut pas mettre quelqu'un dans son jardin à côté du lapin, quoi.
Non,
par exemple,
non, mais t'as raison de le dire. Il y en a qui posent la question. Mais...
Oui, et puis c'est moins légal. Enfin, au sens où en général, quand on le met dans le jardin, c'est que c'était déjà pas légal.
Là, c'est qu'il y a quelque chose de louche là. Là, il y a un truc louche. Hop, mais tu as donc après le.
Ah oui, c'est une civière.
T'as la civière,
ouais. Ok. Ah oui, donc ça c'est
un caisson réfrigéré.
Ah, c'est un caisson réfrigéré. Ouais.
Pour les transports de corps. Donc tu peux aussi, bien sûr, si on retire la civière, il peut y avoir un cercueil, on peut transporter un cercueil dedans.
Ok.
Mais ceux-là sont spécialisés pour transférer les défunts.
Oui, donc un corbillard, ça
Oui, ça transporte un défunt, mais ça peut être...
Ça s'appelle une ambulance, ouais.
C'est une ambulance funéraire, mais ça reste une ambulance. Le corbillard, voilà, c'est celui-là. Ça, c'est
un corbillard.
Ça, c'est gigantesque.
Oui, on a des grands modèles de corbillards, ouais. C'est des sprinters. C'est vrai que généralement, nos confrères ont plus ce type de véhicule, même pour mettre le cercueil, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire monter beaucoup de familles.
Nous, si on a choisi ça, c'est parce qu'à l'arrière,
on peut asseoir au moins 3 personnes de la famille.
Ah, tu fais monter les gens dans le corbillard ?
Ouais.
Okay.
Ah ouais, une fois qu'on a fermé le cercueil, s'ils veulent monter avec nous pour aller jusqu'à l'église ou le cimetière, et bien ils peuvent.
Je me permets juste de faire un pas.
Ouais, vas-y.
Mais je vois une vitre, en fait.
Oui.
Et donc, en fait, là, je rentre dans le corbillard. Ah oui, donc il y a une vitre et je peux voir le cercueil.
Non, alors le... C'est intéressant ça.
Ben oui.
Tu n'as pas le droit de voir le cercueil.
Ah, j'ai pas le droit de voir le cercueil.
Non. Alors, c'est marrant parce que tout le monde demande ça après les obsèques de Johnny Hallyday. Mais ils ont fait une entorse au règlement. T'as pas le droit.
Alors attends, parce que j'ai pas suivi les obsèques de Johnny. On voyait le cercueil ?
Oui.
Ah, ok.
Oui, oui. Mais c'était un véhicule un peu spécial. Mais non, tu vois, c'est.
Alors
c'est
attends,
pas de ce côté-là.
Je vais passer. Attends, j'ai le sac à dos, je veux peut-être pas. Gêné. Voilà.
Hop. Je vais te l'ouvrir là. Tu as...
Donc là, en fait, il y a des rails.
Même pas.
Ah non, mais c'est ça, on dirait des rails,
ouais,
mais tu le
mets
pas
au-dessus.
C'est
plus ou moins des rails, mais tu vois, le cercueil entre dans ce qu'on appelle un catafalque. Et tu le fais rouler là, et puis...
Ah oui, d'accord.
Il rentre dedans, mais il est enfermé, tu vois.
Il est en dessous, il est pas au-dessus.
Ouais.
D'accord.
Tu ne peux pas voir le cercueil.
D'accord. Et donc celui de Johnny, il l'avait mis au-dessus.
Il n'y avait pas ça.
Ah, il n'y avait pas ça, d'accord. Il n'y avait pas le cache, en fait, sur le
dessus.
Ok.
Pas le cata.
Il faut quand même qu'on parle un petit peu argent. De ce que j'ai trouvé, moi, de mes recherches, grosso modo, le budget d'un enterrement en France, c'est autour de 4000 euros. Ça te parle ou pas ?
Ouais, non, ça me parle pas du tout. Enfin, pas aujourd'hui.
Alors, c'est plus ou moins pour
c'est...
toi ?
Ça, c'est beaucoup plus.
Beaucoup plus, d'accord.
Ouais, bon, beaucoup plus. Ah. Ça, bon, après, c'est vrai que ça va dépendre si, effectivement, le corps doit être amené vers un funérarium, s'il y a déjà une sépulture de famille existante... s'il y a un passage à l'église, bon allez, on va dire effectivement que les 4000 euros n'en sont pas si déconnants si effectivement on laisse le corps dans un hôpital, il y a déjà un caveau de famille, on passe pas à l'église. Non, c'est un budget qui reste raisonnable, mais aujourd'hui avec l'envolée des prix, finalement on est tout aussi impacté avec l'envolée des prix du carburant, l'envolée des prix du bois, c'est bête mais un cercueil c'est en bois, tout ça aujourd'hui c'est répercuté. L'inflation qu'on est en train de prendre en ce moment, on va nous dire oui c'est un budget, c'est très cher, oui c'est très cher, mais c'est sûr que quand on ne rencontre que moi, on ne se rend pas compte derrière qu'il y a un travail d'équipe, il y a une équipe de porteurs, il y a une personne qui va venir préparer le défunt, il va y avoir l'enlèvement du corps.
Ça fait combien de personnes? J'étais en train d'essayer d'additionner dans ma tête, mais c'est vrai que du coup ça fait combien de personnes qui travaille sur un enterrement, entre guillemets.
Eh bien, on va prendre, allez, admettons, il y a moi, 4 porteurs, un maître de cérémonie, un thanatopracteur, une personne qui va aller faire les démarches. On est allé entre 7 et 8.
Oui, donc ça commence... Parce que ce que j'allais te demander ensuite, c'était ça.
Sans compter les marbriers, plus une équipe de marbriers qui va ouvrir. Tu peux rajouter 2 personnes. Ça fait 10.
Il y a des gens qui creusent physiquement aussi.
Oui, comme tu dis, oui.
C'était une de mes questions, là on a commencé à l'expliquer, c'était pourquoi les 4000 ou un peu plus. Donc il y a le cercueil, combien ça coûte un cercueil par exemple?
Nous ici, en prix moyen, on va être autour de 1000 euros. Même le premier prix, un cercueil en chaîne, ici on est même à moins de 1000 euros, on est à 991 exactement.
D'accord. Si je viens de voir, quelqu'un est décédé dans ma famille, tu me disais on parle argent en dernier. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? C'est quoi le processus? Ça commence par quoi? Qu'est-ce que tu vas me dire en premier?
J'ai déjà présenté mes condoléances. J'ai demandé, bien sûr, si tu as les papiers, le livret de famille, pour prendre un petit peu les renseignements sur la personne. Généralement, tout le monde ne l'a pas, donc on commence par discuter, à demander le prénom, le nom, la date de naissance, le lieu de naissance. Et puis des fois, un petit peu comme ça mène à des conversations où on va dire « il est né à tel endroit, ah oui, tiens, je connais ». Enfin, moi, j'essaye toujours déjà d'adoucir en essayant de se familiariser avec les personnes que j'ai en face de moi. Si je vois en tout cas qu'il y a une ouverture, et puis petit à petit, comme ça, on va avoir une conversation de où est-ce qu'il faut l'inhumer, je ne demande pas ce que vous souhaitez faire, c'est qu'est-ce qu'il aurait souhaité pour ses obsèques, par exemple.
Et après, dans quel ordre on choisit? Est-ce qu'on fait d'abord le cercueil, ensuite la pierre, d'abord la pierre, ensuite le cercueil? Il y a un ordre particulier?
Non, la pierre, ça c'est tout à la fin.
D'accord.
Si vraiment il y a pas de monument encore, si c'est une construction de caveau ou autre, ça c'est vraiment tout à la fin. Dans la conversation, après, petit à petit, oui, on va... Moi, j'essaie que ce soit à peu près au milieu de notre rencontre d'aller choisir le cercueil. Ouais. Avant ça, bon, ben, je demande si, bien sûr, il faut prévoir des faire-part, si on souhaite que le corps soit rapatrié aussi au funérarium ou si on doit le laisser à l'hôpital.
Il y a des achats, entre guillemets, complémentaires, du coup, comme on est le commercial. Tu sais, à côté de la caisse, il y a des petits bouquets, des choses comme ça. Les gens se disent à la
non.
fin, tiens, ça, je rajoute très bien.
Non, moi, je suis pas comme ça. Ouais. Je suis pas comme ça. Moi, j'essaie de proposer quelque chose à la fin où ils ont rien à rajouter. Ouais. Ils ont rien à rajouter. Bon, déjà, les fleurs, nous, je pense qu'on est une rare entreprise à faire ça. Les fleurs, on les vend pas. On laisse, on n'est pas fleuriste. Ouais. L'entreprise, elle est là depuis trop longtemps. Tous les fleuristes dans le coin, on les connaît. Donc, on les laisse aller chez le fleuriste de leur choix. Sinon, ça voudrait dire qu'on prend une commission sur la vente des fleurs et
est-ce
on fait pas.
Est-ce qu'il y a des tendances dans les cercueils et en tout cas le mobilier et ce qui se fait pour tout ce qui est funéraire, ou est-ce que si je viens, tu me proposes les mêmes choses qu'il y a 20 ans ou 10 ans, ou est-ce qu'il y a des choses qui changent?
Il y a des choses qui changent, et alors c'est dingue, quand j'ai commencé dans ce boulot il y a 10 ans, je me disais tiens, il y a peut-être une mode un petit peu, il y a des choses qui tournent, et pas du tout. D'accord. Concrètement, tu viens, il y a ici les mêmes cercueils qu'il y a 20 ans. Ouais. Alors parfois, il y a des nouveautés qui arrivent. On a eu à un moment les cercueils en carton, etc. Il y a eu une demande là-dessus. Ouais. Après, si pour des personnes jeunes, on va nous dire « Ah, mais ça, c'est un peu ragard, c'est un peu craignos, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Bah, bon, je l'ai déjà proposé concrètement, j'ai dit bah, si vous voulez on peut écrire sur le cercueil, un cercueil qui partait en crémation et puis bah, les personnes avaient des choses à dire et puis on peut pas l'exprimer en mettant des plaques funéraires ou autre, j'aurais dit bah, tenez, prenez un marqueur et puis bah, écrivez-lui des mots,
oui,
plutôt que des plaques, voilà, bon, c'est des petites choses comme ça où on va suivre, taguer un cercueil il y a 20 ans, je pense que ça se faisait pas ou très peu, aujourd'hui on le fait un peu plus facilement, ouais.
Ah, tu as vu des cercueils tagués?
Oui, bah, ils avaient écrit des petits mots, donc c'était...
C'est une belle
ouais.
idée. C'est
ouais,
une belle
bah idée. Ouais,
ouais. Oui, on a vu pas mal.
Ah oui, donc 1, 2, 3, 4, vous avez quoi?
On a donc deux corbillards,
ah oui,
deux
a...
véhicules, deux ambulances. Ça, c'est une ambulance aussi.
Mais alors,
c'est... Et puis ça, c'est un véhicule de suite pour les porteurs qui nous permettent de mettre les fleurs dedans quand il y a beaucoup de fleurs ou quand il y a toute la famille qui monte dans le corbillard, les porteurs prennent l'autre véhicule.
Il t'arrive de faire beaucoup de bandes dans un corbillard? C'est quoi le plus loin où tu sois allé avec un... Alors, en corbillard ou ambulance, du coup, pour
voilà.
récupérer un corps? C'est l'ambulance qui récupère le corps.
Ouais. Alors, même quand on doit faire beaucoup de kilomètres avec un cercueil, bon, généralement, on préfère prendre les petites ambulances qui sont là, les petits vitaux. On est déjà allé le plus loin, jusqu'en Roumanie.
Ça fait combien d'heures?
Ça fait 2 jours, je pense, de route.
C'est ça, c'est en plusieurs
ouais,
jours.
Ouais, ouais.
Donc vous avez mis 4 jours au total?
Oui, il a dû mettre aller-retour, ouais, au moins 5 jours même.
Et ça, c'est prévu.
Rester un peu sur place.
C'est prévu, j'allais dire, dans votre plan de fonctionnement, parce que le mec part chercher un corps pendant 4 jours, s'il y a d'autres choses.
Alors
à
là,
faire.
En l'occurrence, c'était un corps qui retournait en Roumanie, ouais, donc on a fermé le cercueil ici, et puis notre collègue, l'a emmené jusque là-bas, ouais.
Je sais pas si c'est une question étrange, mais quand tu roules 2 jours avec un corps, ça veut dire que tu vas t'arrêter de dormir à l'hôtel.
Oui.
Est-ce que tu laisses le corps dans la voiture?
Bien sûr.
Et il dort sur le parking.
Voilà. Ouais, ouais, c'est le cas.
Ça me donne vraiment envie de me faire enterrer très très loin pour faire un dernier hôtel. C'est trop bien.
Un petit peu, ouais.
Donc,
tu peux demander ça.
Donc il y a un de vos employés qui s'est baladé avec le corps jusqu'en Roumanie et il s'arrêtait genre manger, dormir
ouais,
et tout.
Exactement.
Et le corps, il restait dans le parking, quoi.
Voilà.
Ah,
bah,
c'est
ouais.
trop bien.
Ouais. Ouais, non, il n'y a pas d'autre solution.
Ouais, bah oui, non, c'est sûr.
Ça reste dans le véhicule.
Et c'est déjà arrivé qu'un... Là, je parle vraiment sur un scénario de film. Mais il va en boîte le soir et il fait n'importe quoi avec le corbillard et le cercueil tombe. Et...
Non, écoute, j'ai jamais vu ça et j'en ai même jamais eu vent, quoi.
Non.
Jamais.
Tu reçois des gens qui sont majoritairement tristes. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses à absolument pas dire quand tu reçois quelqu'un comme ça?
Bonne journée à la fin d'une conversation.
Oui, c'est, ça paraît bête,
ouais,
mais...
Ouais. J'ai déjà eu au tout début, ça m'avait un peu cassé, mais bonjour messieurs, dames, entrez, installez-vous, et tout de suite on me dit, non, c'est pas un bonjour, non.
Ouais,
ouais, c'est une formule de politesse.
Oui.
Des choses à ne pas dire. Non, là, comme... Bah, peut-être que...
J'ai l'impression qu'il y a plus...
Peut-être que si j'avais été préparé à cette question, il y a des choses qui me seraient venues là, comme ça, dans l'immédiat, à part bonne journée, non.
Mais c'est déjà significatif, parce que c'est vrai que, mine de rien, c'est un mot du quotidien qui, ouais, dans certaines circonstances, en effet, n'a pas de sens, en fait, pour les gens qui l'entendent. Tu disais, il y a des gens qui sont heureux, qui mettent en
tout
perspective,
monde n'est pas triste,
en fait.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Tout le monde n'est pas... Bon, en tout cas, ne paraît pas triste en arrivant ici.
Il y a des gens qui parfois avaient l'air trop heureux et t'as appelé la police.
Non. Non.
C'est jamais arrivé. T'as jamais vu le syndrome de la veuve joyeuse et après tu regardais Faites entrer l'accusé et tu la reconnaissais.
Non.
Ça ne t'est jamais
heureusement
arrivé.
Non. Bon. J'ai vu des personnes agressives, des personnes trop joyeuses. Si, mais je me dis que c'est un exutoire. Ouais.
Ah oui, c'est
mais tu vois, il y a vraiment les deux pôles. Il y a autant des personnes qui arrivent et on dirait pas qu'ils viennent de perdre leurs proches. Et d'autres, au contraire, sont agressifs. Ouais.
J'ai l'impression qu'en fait, moi, je m'attendais à ce que tu me dises, il y a beaucoup de gens tristes, il y a beaucoup de gens...
Mais... Ah oui, il y en a, hein, faut...
Oui, alors, mais ce que je veux dire, c'est que plus que des attitudes étonnantes, c'est plus l'agressivité qui a l'air de revenir, parce qu'en fait, il y a une certaine méfiance envers vous, si je comprends
c'est
bien,
ça.
Presque.
Ouais. Alors, c'est pas à chaque fois, hein, mais il y en a, oui, il y en a qui, évidemment, arrivent et qui pensent que tout de suite, on va les voler ou...
C'est assez dingue quand on y pense parce que vous êtes là pour faire votre boulot et...
Ouais, exactement. C'est... Mais parce qu'il y a Ouais, il y a des... Je sais pas, il y a des... Enfin, si, je sais, il y a des croyances là-dessus à se dire que c'est très cher et qu'on se gave. Ouais, il y en a qui...
Est-ce que c'est aussi un exutoire aussi d'être agressif envers vous c'est
oui,
une manière d'exprimer
clairement,
la tristesse.
Clairement, il y en a, c'est pas simplement parce que les frais d'obsèques sont chers. Mmh. C'est comme tu dis, c'est parce que ils ont perdu quelqu'un. Et puis, on est là pour s'occuper de ce défunt. Donc peut-être que pour eux, quelque part, on est là pour prendre tout ça, quoi.
Mmh.
Pour prendre leur colère et...
Et
se décharge sur nous. Oui.
Et puis c'est vrai qu'il y a, pour avoir assisté à quelques enterrements, vous avez un rôle en général. Ceux auxquels j'ai assisté, c'était toujours très bienveillant.
Mm.
Mais c'est vrai que c'est des gestes forts. Le moment où on cloue, enfin où on
ferme le cercueil,
ouais. Ouais. Le moment où on met la terre sur le cercueil.
Ouais, c'est ça. Il y a
des
moments
très très violents pour certaines personnes qui ont peut-être pas été confrontées à la mort avant.
Ouais, exactement.
Et ça
c'est vrai.
Très fort.
Il y a des moments forts. Hein. On en parlait tout à l'heure. Le cercueil, aller choisir le cercueil.
Mm.
Nous ici, on a une exposition. Mais avant de les emmener à l'exposition, je leur demande s'ils préfèrent pas voir sur catalogue, parce que je sais que c'est un moment fort. Quand on arrive dans la pièce, il y a... tu vois, tout à l'heure, on parlait de son entre nous, il y a cette respiration qui est prise, il y a un petit blocage, il y a ça. Comme tu dis, le moment où on ferme le cercueil, quand on pose le couvercle, là, il y en a toujours, ou au contraire, tu vois, on disait, il y a une respiration quand on arrive dans la pièce, là, il y a des soupirs. Il y a des temps forts.
On parlait du fait que la mort, justement, était naturelle dans la vie. C'est peut-être parce qu'on l'oublie trop dans notre société que les gens... Moi, je me permets de te le dire, quand j'ai dit que j'allais faire ce reportage, c'est un de ceux où j'ai eu les réactions des fois les plus... Ah, c'est lugubre. Ah, enfin, il y a ce truc de... Ah, ça va être triste. Mais en vrai, on est dans un bureau, il y a de la lumière, il fait encore jour dehors, en l'occurrence, bon, voilà... T'es un humain comme un autre, et en fait, cette peur de la mort qui s'est imprégnée, le fait qu'on n'en parle plus, comme alors que dans d'autres sociétés, par exemple, où c'est plus ouvert et où on a peut-être même des cérémonies un peu plus longues, etc.,
oui.
Ça fait que ça vous a mis sur vous, en fait, une sorte de... moi, je te dis, j'avais l'impression de venir voir quelqu'un d'obscur dans l'ombre avec un costume noir.
On a toujours cette impression-là.
Je le dis,
il y en a un
costume bleu.
Ah, voilà.
Donc, mais oui, ça fait peser tout ça sur vous. Toi, tu le vis comment, des fois, qu'on te voit comme ça qu'on... Moi, je t'ai dit, on m'a dit, ah, tu vas aller parler à un croque-mort, c'est pas joyeux ta fin de journée, quoi.
Bah, je le vis, ça m'amuse. Honnêtement, ça m'amuse. Ça m'amuse parce que finalement, tu vois, comme toi, après, quand on dit, j'aurais jamais pensé que tu faisais ça. Donc, quelque part, ouais, ça m'amuse qu'il y ait tout ce voile un petit peu autour de... autour de ce corps de métier. Et j'aimerais bien savoir, tu vois, de quoi ça vient à la base, de quoi c'est venu. Mais après, il y en a qui sont, comme tu le décris, j'en ai déjà vu ou même eu au téléphone, t'as envie de leur dire, ah, oh, arrête, t'es tout ce qu'on décrit de notre milieu, faut que t'arrêtes de dire ça ou d'être comme ça.
Ah oui, par contre, il y a vraiment des gens dans le milieu qui sont très lugubres.
Oui, il y en a qui sont, nous allons procéder à ceci, à cela. Veuillez me suivre, messieurs, dames, nous allons choisir ensemble le cercueil. Et là, tu dis, ah non, j'ai passé un monde.
Ah oui, donc t'as des collègues, en fait, qui parlent comme Dracula, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Comte Dracula. Ouais.
Les remerciements des gens, quand même, parce qu'il y en a à la fin des enterrements, enfin, je pense, à ceux auxquels j'ai assisté, en tout cas, on remercie souvent les gens, le personnel des pompes funèbres. Oui. Ça te touche encore quand même quand c'est
exactement
bien fait.
C'est ce que j'allais te dire. C'est on a beau dire, il y a des personnes qui sont joyeuses ou autres. Encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde. C'est quand même un métier qui reste assez difficile tous les jours parce que c'est pas toujours des gens qui sont morts de leur belle mort. Il y a aussi bien sûr des enfants, des personnes un peu jeunes, des gens qui ont notre âge. Et ça peut être un petit peu compliqué. Effectivement, je pense que la plus belle, je sais pas si c'est très bien dit comme ça, mais la plus belle récompense, c'est effectivement quand les personnes viennent nous voir à la fin et nous disent merci pour tout ce que vous avez fait. Il n'y a pas de mots. Là, c'est encourageant pour la suite. C'est encourageant par la suite. C'est pas facile tous les jours, et quand il y a des beaux retours comme ça, c'est encourageant, et on a envie de continuer à faire ce qu'on fait.
On parlait de poids que parfois vous encaissez par leur tristesse qui se transforme en agressivité, etc. C'est vrai que physiquement, ou en tout cas mentalement, on parle beaucoup de charge mentale maintenant, vous leur retirez aussi un poids de beaucoup d'organisations, c'est vrai.
Oui.
C'est aussi peut-être de là que vient le remerciement, c'est que humainement, je pense que la plupart des gens ne pourraient pas eux-mêmes mettre un proche dans un cercueil, le fermer et mettre de la terre dessus.
Ouais, t'as bien raison, ouais. C'est vrai. Oui, et puis il y en a qui le disent, quand ils arrivent, disons, faut que j'aille à la mairie, et puis faut que j'aille faire ça, faut qu'on appelle lui. Attendez, je m'en occupe pour vous, et à la fin, ils nous disent, merci, on n'aurait jamais pensé que vous faisiez tout ça. Merci, comme tu dis, merci, vous nous enlevez un poids.
Ils ont pas mis l'alarme.
Ouais, non, c'est une alarme.
Hop. Voilà, ça c'est là.
La partie funérarium.
Là, on est dans ce que tu appelles le funérarium. Donc, ouais. Alors, là, pour le coup, c'est un peu fidèle au cliché au sens où c'est très blanc.
Oui, alors, parce que c'est. On est une vieille entreprise. Et le funérarium, donc la partie avec les cellules réfrigérées, ont été construites dans les années 70, où bien sûr il fallait que tout soit carrelé et que tout puisse rester très très propre. Donc c'est peut-être la partie des locaux qui fait un petit peu vétuste. Mais oui, là comme tu dis, on est plus dans une partie un peu cliché, mais en même temps il n'y a que nous qui voyons cette partie-là, c'est fermé aux familles.
C'est même pas particulièrement vétuste, mais c'est vraiment le côté carrelage blanc, mur, carrelage blanc au sol, le plafond est blanc.
Que ce soit hygiénique. Hein.
Ouais. Et parce que oui, le bac, il y a un grand bac en inox, pareil, ça sert à quoi? C'est-à-dire que c'est après avoir manipulé les défunts?
Oui, quand on prépare les défunts, il faut pouvoir les laver. Donc il faut pouvoir avancer bien sûr le chariot jusqu'ici, tu vois, pour pouvoir avec la douchette pouvoir nettoyer les cheveux ou nettoyer les parties du corps qui sont souillées. Oui.
Ah oui, donc là le petit chariot à côté de moi, c'est là où on met normalement les défunts.
Voilà, on amène la civière pour l'amener jusqu'au bac. Ouais.
Et donc ce qui est derrière nous, les grandes portes, on dirait des grandes portes de frigo.
C'est ça.
Si je dis pas de bêtises. Et donc là-dedans, il y a des défunts.
Voilà, là à droite, il y a des défunts. Je t'ouvrirai pas les grandes portes.
Voilà.
Pas forcément, ceux-là sont pas allumés en ce moment, donc on peut les ouvrir.
Ah oui, donc c'est des civières.
Voilà, c'est des civières. Ouais.
Il y a c'est des civières qui sont sur roulettes.
Voilà. Donc, et là, il y en a
10. 4, 5, 6 en hauteur.
Là, en tout, on en a 10. On a 5 ici, 5 de l'autre.
Ah, d'accord, 5. Oui,
donc, en
oui,
tout, en tout on a 20 cases ouais, ici.
Ah oui, donc t'as 20. Et c'est, ça arrive qu'il y ait 20 personnes en même temps?
Non, c'est vraiment rare. Ça nous arrive plus trop, non. Mmh. Non, on a, bah, comme je te disais, on est un vieux funéraria, mais à l'époque où il a été construit, on était le seul dans le secteur. Donc, on avait bah, tous les défunts des hôpitaux qui venaient ici. Mmh. Il y avait vraiment beaucoup, donc oui, c'était rempli plus souvent. Autant c'est pas rare qu'on en ait 10, mais que les deux soient remplis, non.
Il y a 3 étiquettes, donc ça veut dire qu'il y a 3 personnes en fait.
Ouais, en ce moment, on a 3 défunts.
3 personnes qui sont là-dedans.
Toi, justement, mentalement, tu disais que c'est pas un métier facile. On l'a dit, t'es dans un groupe de rock.
Ouais.
Est-ce que c'est un échappatoire, justement? C'est presque une libération d'énergie d'être sur scène.
Oui.
Est-ce que tu penses que tu en aurais autant besoin si tu avais un métier dit plus classique, ou en tout cas où tu ne serais pas en contact avec la mort? Ou est-ce que justement tu te sens que tu en as encore plus besoin de ce genre d'échappatoire?
C'est une bonne question. C'est un échappatoire, quoi qu'il arrive. Enfin, tu vois, il y en a qui sortent du boulot, ils vont courir, ils vont à la salle de musculation. Moi, je sors du travail et il faut que j'aille faire de la musique. Peut-être que c'est aussi un moyen, après des journées un peu compliquées, de bien me décharger. Ouais, en fait, j'ai l'impression que ouais, c'est ça, c'est mon exutoire et que c'est même parfois aussi un petit peu mon deuxième travail, quoi. Alors, je vais pas dire mon travail plaisir parce que c'est bizarre à dire peut-être, mais j'ai plaisir à faire ce métier-là. Je me lève pas tous les matins en me disant je vais au chagrin ou je vais à la mine. Non,
parce que le plaisir, du coup, il vient d'où? Il vient d'aider les gens.
Ouais. Ouais. Il vient d'aider les gens et puis ouais, j'ai plaisir à accueillir les personnes et à me dire quand elles ressortent de mon bureau, je les ai aidées. Ouais.
Oui, c'est vraiment
il y a de la reconnaissance. C'est un métier où il y a quand même beaucoup de reconnaissance.
Tout ça, tu le disais, toi, tu as besoin d'un exutoire, c'est un métier difficile, alors que encore une fois, tu as baigné quand même dedans.
Ouais.
Tu le disais, ton père est thanatopracteur,
c'est ça.
Je dis pas de bêtises. Ouais. Toi, quand tu es gamin, tu réalises à quel moment ce qu'il fait?
Ah, bonne question. À quel moment j'ai réalisé que mon père avait un métier particulier? J'arriverai pas à te dire à quand ça remonte, parce que... tu sais, quand on est gamin, on a toujours à table les conversations. Enfin, je sais pas, mais mes parents se racontaient leur journée. Et en fait, mon père en a toujours parlé de manière très, très libre. Mmh. Alors, j'ai jamais eu, tu vois, il est jamais venu vers nous en disant « Ah bah, vous savez, les gars, j'ai dit, ouais, les gars, parce que j'ai un frère et une petite sœur, mais on a beaucoup d'écart avec elle. » Mais c'est toujours, il nous a jamais dit « Ouais, les gars, vous savez, le métier de papa, c'est très particulier, c'est non Peut-être que ça vient, tu sais, de quand t'es gamin et que tu dois écrire le métier de tes parents à l'école. Et qu'on dit, bah, thanatopracteur, c'est quoi ça? Je dis, bah, mon papa, il prépare les morts. Et regardez, avec des grands yeux, il fait quoi ton papa? Il prépare les morts. Peut-être que c'est de là où je me suis dit, tiens, c'est pas un métier comme tous les papas.
C'est le regard des autres, en fait, au final.
Ouais, c'est ça, c'est le regard des autres.
Qui finit par te... Tu l'as subi, ça, par exemple, ado ou... tu vois, collège, lycée
Non, peut-être parce que ça a toujours finalement amusé mes copains que mon papa soit thanatopracteur. Ouais, je pense que ça les a toujours amusés, donc j'ai jamais eu trop ce regard. Au contraire, ils étaient curieux.
T'as fait des visites
Oui, bah ouais, il y en a que ça a attiré.
Ouais.
C'est un boulot qui a attiré, qui ont fait du coup leur carrière dedans. Donc, okay. Ça a donné vocation. C'est un beau métier. Si t'as l'occasion de suivre un thanatopracteur, c'est.
Bah écoute, on est.
C'est vraiment un beau métier.
Si,
J'aurais pu. Je me suis posé la question à un moment de dire est-ce que j'aimerais pas être thanatopracteur. C'est un métier qui m'aurait plu, je pense, si c'était pas autant difficile de le devenir. C'est quand même difficile d'être à mon poste, mais. Au final, je préfère être du côté des vivants. Thanatopracteur, le thanato, il est tout seul, dans son funérarium, dans sa voiture, aller d'un point A à un point B. Moi, j'avais besoin quand même d'être avec des vivants. Ouais.
Tu dis c'est difficile, c'est des études de médecine, non?
Ouais, c'est l'équivalent des deux premières années de médecine, si je te dis pas de bêtises. Et derrière, tu as aujourd'hui un examen théorique et pratique. Et l'examen théorique est très, très dur à avoir. Parce que sur...
je sais pas combien de personnes se présentent à chaque session, allez, je vais peut-être dire 300, sur les 300 personnes, ils vont en prendre que 60. Donc t'as intérêt à être dans les 60 meilleurs, si t'es 61e, c'est mort. T'as beau avoir 99,5% de réussite, si le mec avant toi, il a fait un meilleur score, c'est...
Ah oui,
et c'est très dur. Hein.
Ouais. Donc, c'est très pointu.
Ouais, très pointu.
Pour toi, donc, est-ce que ton père était un naturopracteur? Ça veut pas pour autant dire que t'as toujours voulu faire ce que tu fais?
Non.
Comment tu en es arrivé là?
Alors, c'est marrant.
En plus, la tournure de la question est pas très belle parce que comment t'en es arrivé là? On dirait que c'était c'est presque un problème.
Non, mais c'est marrant. Voilà. Y a un adage dans le métier qui dit on y arrive souvent par dépit, on y reste par passion. Alors, pour moi, j'y suis pas du tout arrivé par dépit. On en parlait tout à l'heure, toi et moi, sans le micro. Moi, j'ai fait des études. Enfin, à la base, j'ai un bac dans le commerce qui était à l'époque STT option AAC. Ça n'existe plus. Mais aujourd'hui, je crois que c'est STG. Ça a encore changé. Ouais, ça a encore changé. Et derrière ça, je voulais pas en fait faire du commerce. Moi, je voulais être dans les métiers d'art. Donc, j'avais fait 2 années en histoire de l'art. Suite à ça, je me suis dit, ben non, en fait, il n'y a pas de débouché qui m'intéresse en histoire de l'art. Comme je suis musicien, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti faire 2 ans en études du son. Mmh. Et là, je me suis dit, ben non, je veux pas être ingénieur du son. Ce que je veux, c'est être musicien. Mais derrière ça, comme mon papa était dans les métiers du funéraire, c'est quelque chose qui m'intéressait toujours. Et je me suis dit à un moment, faudrait peut-être... En fait, à côté de ça, à côté de mes études, je travaillais chez Starbucks. Je faisais du café chez Starbucks et je me suis dit, mais je voyais toujours ça comme étant, c'est pas un vrai travail. Et je veux avoir l'impression de faire quelque chose de... Alors, attention, je jette pas la pierre au...
Non, je vois ce que tu veux dire.
Non, je jette pas la pierre au garçon de café ou quoi que ce soit. Mais je voulais avoir... En rentrant chez moi, je voulais avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de concret de ma journée. Et d'être dans le vrai et du coup je me suis remis un petit peu à m'intéresser à tout ça et au métier du funéraire et finalement je me suis dit si je ne suis pas thanatopracteur, qu'est-ce qui se rapproche le plus de ça? Et c'est d'être conseiller funéraire et là on est à la base de tout, je dirais.
D'habitude je termine l'émission en demandant aux gens ce qu'ils conseilleraient aux autres qui veulent faire le même métier qu'eux ou la même passion qu'eux. Je pense que tu l'as bien expliqué déjà, et j'aurais plutôt une autre question pour toi, qui est plus particulière et qui est plus spécifique à ton métier, c'est de savoir qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont angoissés ou qui se demandent ce qui les attend à l'idée de venir te voir.
Qu'on est avant tout des... Comme tu le disais tout à l'heure, on est avant tout des êtres humains comme eux, avec les mêmes problématiques qu'eux, et c'est pas parce qu'on fait ce métier-là que ça nous touche pas non plus. La mort nous touchera à un moment donné aussi. Et finalement, on est humain, on sait ce que c'est que de perdre un proche. Et il n'y a pas de tabou, quoi. Il n'y a pas de tabou. C'est pas parce qu'on passe la porte d'une entreprise funéraire que on bascule dans un autre monde ou quoi que ce soit. On est des êtres humains. On est des papas. On est des mamans. Et je pense qu'on a, on a beaucoup de recul sur tout ça. Et
merci beaucoup.
De rien.
Vous venez d'écouter Occupation, un podcast TDA Média tourné et monté par moi-même, Alain Mattei. Vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes de podcast. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez nous soutenir, rien de plus simple, laissez une évaluation et ou un commentaire sur votre appli de podcast préféré. C'est gratuit et ça aide pour la promo. Vous pouvez suivre l'émission sur Twitter, Instagram et Facebook. Les comptes, c'est @occupationpod. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.